cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 4 décembre 85.
Sur quels critères peut-on choisir la morale aristotélicienne parmi toutes les morales? Pourquoi le bonheur de la morale aristotélicienne serait-il la qualité suprême, à ceux des autres morales? Faites vos choix, c'est tout. Je n'en fais rien, moi. Je pars de l'expérience, ce que nous allons essayer de faire. Je vous ai montré les choix, donc, à la carte. 10 ans de morale stoïcienne, ou bien plutôt, 5 ans de morale épicurienne. 10 ans de morale épicurienne, stoïcienne, puis, quand on arrive à 45 ans, morale aristotélicienne. Parce qu'Aristote dit qu'il faut 45 ans pour entrer vraiment dans sa morale. Qu'au début, c'est impossible, on est beaucoup trop passionné, c'est impossible. Comment voulez-vous être aristotélicien quand on a 17 ans? On peut pas. Non, c'est absolument impossible. De 17 ans à 25 ans, non. Épicure. Puis après, on comprend que ça n'aboutit pas beaucoup. Alors, l'efficacité. Alors, la morale stoïcienne. Bien par réaction à la morale de nos pères jésuites, on est épicurien. Ça n'existe pas. Il y a une réaction. C'est un peu stoïcien. La formation de la volonté, de façon très forte. Alors on devient un peu épicurien. Toujours. Vous savez, c'est très rare qu'il y ait un choix moral direct. Ordinairement, on est en opposition. Puis petit à petit. Alors, on est philosophe, donc nous avons tous 45 ans. Dites-vous bien ça, on est philosophe, on a tous 45 ans. Parce que vraiment, je crois que la philosophie de la morale exige une certaine expérience. Alors, je ne vous impose rien, du tout. J'aime Aristote, j'aime Platon, j'aime saint Thomas, j'aime les stoïciens, Épicure, au lever du soleil, au coucher du soleil. C'est très très beau, c'est quelque chose d'assez étonnant. Bon, on voit très bien tout ça. Au fond, nous portons en nous toutes ces morales. Il faut en exclure aucune. Mais il faut quand même découvrir qu'est-ce qui va me permettre d'aller le plus loin. C'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce qui va me permettre d'aller le plus loin? Je ne peux pas, a priori, évincer une morale et en accepter une autre. Ce serait philosophique. Si vous avez eu des maîtres épicuriens, si vous avez eu des maîtres stoïciens, si vous avez eu des maîtres platoniciens et dits de Socrate, si vous avez eu des maîtres chrétiens, si vous avez eu, c'est rare qu'on a eu des maîtres aristotéliciens, on les compte sur les doigts. Alors, on est forcément un peu marqué, je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, il s'agit d'entrer en philosophie. J'ai exprès montré les différents courants pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule morale. Mais comme tu restes toujours, il y a un pluralisme. Mais nous sommes philosophes. Et nous avons au point de départ dit que nous partions de l'expérience. Donc, ce n'est pas un critère. Moi, je n'ai pas de critère moral. A priori. Je pars de l'expérience, de notre expérience. Nous avons tous une certaine expérience morale, du moins j'espère. Si on n'a pas encore atteint l'âge de raison, faites croyance à ceux qui l'ont. À l'école maternelle, on n'a pas encore l'âge de raison, mais alors on obéit. Alors, l'expérience. À partir de quelle expérience vais-je partir? Et au fond, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui va commander tout le reste. La philosophie part de l'expérience, ça je crois. Part pas de l'autorité, donc je ne peux pas partir de telle ou telle philosophie, même pas d'Aristote. Je peux vous dire, lisez l'éthique d'Aristote, lisez les entretiens d'Épictète, lisez Sénèque. Ah très bien, lisez tout ça. C'est bon, ça fait partie d'une culture morale. Lisez l'Évangile, ça fait partie d'une culture morale, religieuse. Lisez l'Ancien Testament, ça fait partie d'une culture morale, religieuse. Si vous allez même un peu plus loin, Confucius, Bouddha, très bien, il ne faut rien négliger. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Hein. Alors, on prend des pistes. Si je veux faire une morale philosophique, c'est-à-dire réfléchir sur le problème moral au niveau philosophique, je pars de l'expérience. L'expérience actuelle, mon expérience. Je ne peux pas partir sur l'expérience de mon voisin. C'est ça qui est très ennuyeux. Je pars de mon expérience. Je ne peux pas partir de l'expérience qui, génétiquement, me semble être la première expérience. C'est-à-dire baser ma morale sur la première expérience du tout petit enfant, dans son berceau. Quelle a été votre première expérience dans votre berceau? Réfléchissez bien. Votre première expérience qui a été l'éveil de votre vie morale. C'était l'amour du biberon, un peu épicurien. Et en dehors de là, vous avez crié, et puis on vous a redonné le biberon. Est-ce que ça a été l'amour de votre mère, un peu plus noble? Est-ce que c'était l'amour de votre père, parce que c'était l'autorité? Pas si commode que ça. C'est-à-dire que je ne peux pas partir d'une expérience que génétiquement je trouve comme première. Ou en tant que croyant, la première expérience morale, c'était la prière que j'ai faite avec ma mère. Le soir et le matin, je ne savais pas très bien ce qu'on faisait, mais ça ne fait rien. Bon, c'est délicieux de voir une petite prière en famille. Voir trois gosses qui prient avec leurs parents, c'est beau. Est-ce que c'est la première expérience? Génétiquement, ça peut être l'expérience d'une morale religieuse. Vous voyez, je veux que nous comprenions bien que nous ne pouvons pas partir d'un souvenir. La philosophie n'est pas la philosophie de la réminiscence. Ça, je crois que c'est impossible. Parce que le souvenir, vous comprenez, le souvenir de votre première prière, le souvenir de la première désobéissance, parce qu'il faut commencer par la négation. Vous avez reçu une bonne tape en pleine joue. Hein. Ou au contraire, vous avez été sage, vous a donné un bonbon. Alors ça, vous vous souvenez beaucoup mieux. Vous ne pouvez pas partir du souvenir. Je crois que c'est impossible. Je regrette ces licences. Donc, je dois partir de mon expérience actuelle. Alors, votre expérience actuelle, hein, parce que nous faisons la philosophie de nos expériences, hein, Nous avons tous actuellement une certaine expérience du devoir. C'est bien évident. Vous subissez des cours de philosophie. Ça fait partie de votre devoir. Devoir d'état. Vous faites la cuisine quand on vous demande de la faire. Alors là, c'est mélangé. Il y a de l'art. Et puis, il y a un point de vue moral de devoir. Si vous êtes un cordon bleu, vous aimez beaucoup de faire la cuisine. C'est merveilleux. C'est étonnant. Le temps passe si vite quand je fais la cuisine. Et quand je suis en cours de philosophie, c'est si long. Alors, vous faites l'expérience du devoir différent. À différents moments. Très bien, à partir de là. J'ai aussi une expérience d'un certain amour, d'amour fraternel, d'un amour d'amitié. Vous voyez, je crois que c'est très important de comprendre les différents moments de votre vie où vous avez l'impression de poser un acte humain. Ah, tiens. Première chose, qu'est-ce que c'est qu'un acte humain? L'expérience d'un acte humain. Au fond, la morale ne peut se développer que dans l'expérience d'un acte humain. Si je pars tout simplement d'actes instinctifs, comme disaient les anciens, fricare barbam, n'est-ce pas? Ou la barbe absente, parce qu'on peut très bien fricarer la barbe absente, mais qui a existé? Alors on fait l'expérience d'un vide quand on vient de se raser, et puis ça commence à pousser les petites dents, n'est-ce pas? Alors c'est autre chose. Donc on peut faire l'expérience d'acte instinctif, mais ce n'est pas une expérience d'un acte moral. L'acte moral, c'est un acte volontaire et humain. C'est la première chose qui doit être faite. Hein. Je pars dans mon expérience. Et là-dessus, vous voyez, je n'ai aucun a priori. Je ne suis pas aristotélicien là-dessus. J'essaie de comprendre autour de moi quels sont ceux qui essaient d'avoir une vie dont ils sont responsables. Je crois que l'activité morale consiste lorsqu'on est responsable de ses activités et qu'on pose un acte moral. Donc, on a l'âge de raison, on est responsable. Et ça se manifeste particulièrement dans certains actes qui sont par exemple, je ne sais pas, l'obéissance ou la désobéissance. Je commence ma journée par dire, hein, je suis de mauvaise humeur ce matin, pas bien dormi, ça va pas du tout. Puis on me demande de faire quelque chose, je dis non, l'exercice de ma liberté moi-même. Hein. J'aime ça. Libéralisme philosophique du bon. L'exercice, c'est vrai, c'est un acte moral, l'exercice de la liberté, à partir de la négation. Je comprends mon autonomie. Faites cette petite expérience, voyez, ça nous pouvons tous faire ça. D'où vais-je partir? Je crois que nous sommes tous d'accord qu'une philosophie ne peut s'édifier que sur l'expérience. Si vous n'êtes pas encore d'accord de ça, essayez de comprendre cela. Et que la philosophie ne peut pas partir de l'inspiration. Nous y reviendrons tout à l'heure. Hein? Alors, je ne vais pas le développer maintenant. Mais elle ne peut pas partir de l'inspiration. C'est trop personnel. C'est trop individuel. Puis l'inspiration, il y a des jours où je ne suis pas inspiré du tout. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes pas inspiré. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas inspiré, je ne fais rien. Je reste dans mon lit. Je ne suis pas inspiré. Je suis pas inspiré à me lever. Je sais pas quel est celui qui t'a inspiré à se lever. J'aimerais beaucoup de savoir ça. L'inspiration particulière de se lever. Ça arrive rarement qu'on a l'inspiration de se lever. Oui, si on part en vacances. Alors, on a l'inspiration, il faut se lever ce jour-là. Autrement, pas beaucoup d'inspiration pour se lever. On se lève parce qu'on se dit, oui, je dois faire ça. Vous voyez le devoir qui apparaît. Je dois faire ça. Je dois me lever tôt parce que je dois prendre un train pour me rendre à tel endroit parce qu'on m'attend là. Et dans votre vie, je dois faire ça parce que, oui, j'ai promis de faire au noviciat ce que je dois faire. J'ai promis. Donc, je dois le faire. Si je ne le fais pas, j'aurai un petit remords de conscience. Je me leverai en retard. Est-ce que je serai reposé? Je ne crois pas. Parce que j'aurai un remords de conscience. Vous voyez, cherchez bien d'où peut partir une réflexion d'une philosophie morale. C'est nécessaire de partir d'une expérience. Et autant que possible, l'expérience la plus riche. Je dis ça parce que si je pars de l'expérience du devoir, je veux bien, on pourrait le faire. Je peux très bien partir de l'expérience du devoir. C'est très commune, hein, parce qu'on a tous des devoirs. Un père de famille a des devoirs, une mère de famille a des devoirs. L'enfant, il a des devoirs, hein, parce qu'il doit écrire, il doit laisser, donc il a des devoirs. Donc, tous, on a tous connu ce point de vue-là. Ça aboutirait à quoi? Partir de l'expérience du devoir. Je peux très bien faire ça. C'est intéressant parce que c'est commun à tout le monde, l'expérience du devoir. Alors, partons de cela. Je dois faire cela. Est-ce que c'est premier? C'est l'expérience du devoir. Je dois faire ça à cause de quoi? Ah. Je dois faire ça pour plaire à mes parents. Jusqu'à un certain âge, c'est comme ça. Je sais que si je ne fais pas ça, mes parents ne seront pas contents. Je n'ai pas été réfléchir beaucoup plus loin, mais c'est déjà quelque chose. Hein. À cause, pour leur faire plaisir. Vous savez, comme le gosse. Mange une cuillerée de soupe pour faire plaisir à maman. Tu dois manger ta soupe pour faire plaisir à maman. Donc, c'est le devoir qui est ordonné à faire plaisir. Tiens. Puis ensuite, je dois faire ça parce que je veux passer un examen. Je sais très bien que si je fais pas ça, je ne passerai pas l'examen. Puis celui qui est un peu plus âgé, qui est fiancé, ah, je fais ça parce que je sais que ça lui fait plaisir, que j'arrive vraiment à passer mes examens. Avant, je ne travaillais rien du tout, mais depuis que je commence à aimer, ça m'éveille un peu dans mon travail. C'est vrai, au fond. On commence à réaliser un devoir quand on commence à aimer. Du moins, c'est l'expérience, je crois, de la plupart d'entre nous. Le devoir n'est pas premier. Vraiment, celui qui fait son devoir parce qu'il faut faire son devoir et uniquement parce qu'il faut faire son devoir, au bout d'un certain temps, il devient un abruti. Le devoir, pour le devoir, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Vous voyez, ça aboutit au fort en thème. Il fait ça parce qu'il faut le faire, il faut le faire. On dit pourquoi? Ah, je ne sais pas. Faut le faire. Espèce d'abruti, tu fais ça parce qu'il faut le faire. Mais tu fais ça pourquoi? Vous voyez, c'est abruti. Et c'est vrai, ça. Donc, très vite, on s'aperçoit que le devoir est relatif à un amour. Plaire à ses parents. Passer un examen. Ça, c'est l'efficacité. Plaire à sa fiancée. Plaire à Dieu. Alors, au fond, pourrait dire, les deux dépassements du devoir, c'est l'amour et l'efficacité. Ça, c'est vrai. Passer un examen, c'est l'efficacité. Plaire à ses parents, plaire à Dieu, c'est l'amour. Donc le devoir ne m'apparaît pas du tout comme quelque chose de fondamental et primordial. Il peut y avoir des périodes où c'est comme ça. On aime ça. Ça m'amuse toujours beaucoup de rencontrer des gens de devoir. Ça a toujours un peu l'impression qu'ils sont des témoins d'un âge révolu. C'est très curieux. Ils ont un chapeau melon sur la tête. Vous savez, ça fait partie d'une certaine époque. Ils font ça parce qu'il faut le faire. Et je crois que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est très curieux. C'est des témoins d'un âge révolu. Au fond, le devoir est toujours en retard, donc. La morale du devoir est toujours en retard. C'est pas parce que c'est Kant, hein. Non, non. Même Kant, quand il a découvert ça, il était déjà en retard. Ça qui est le mieux, c'est que la morale du devoir est une morale en retard. Je crois qu'on peut dire ça. Ou c'est une morale éteinte. C'est pour ça qu'elle est en retard. C'est une morale éteinte. On a éteint la petite bougie. C'est... Là, il y a encore de la fumée. Ça a vécu. Ça, je dis témoin d'un âge révolu. Ça a vécu. Il y avait un petit peu de flamme, on n'en voit plus que la fumée. La morale du devoir, elle ne peut se vivifier que par une morale d'efficacité et une morale d'amour. Déjà pas si mal, hein, de découvrir ça. Je suis parti du devoir. Je vois que je ne peux pas rester là-dessus. Donc, toutes les expériences que vous avez du devoir ne sont pas premières. Tout de suite. L'efficacité, non, ça ne peut pas fonder la morale. L'efficacité, c'est d'un autre ordre. C'est orienté vers le travail. Je dois accomplir mon travail pour passer un examen. Et le travail donne la note de l'efficacité, ça c'est très vrai. Le travail n'est pas du tout ce qui est premier dans l'activité humaine. C'est premier dans l'ordre de la conscience que j'ai de mon expérience. Je vous ai déjà dit que l'expérience du travail, c'est quelque chose de très important. C'est très important parce que c'est la conscience humaine la plus lucide. Ça, je crois. Tout homme bien fait, peu importe ses opinions, a la conscience d'un travail bien fait. La conscience qu'il faut travailler. Et que le travail est exigeant pour l'homme. Et que c'est la première dignité de l'homme. C'est de savoir travailler. Dans n'importe quel domaine. Si on ne sait pas travailler dans le domaine intellectuel, faisons quelque chose dans le domaine de la menuiserie. Faisons quelque chose dans le domaine de la cuisine. Ça ne veut pas dire que le cuisinier ne doit pas, au bout de quelques années de cuisine, se mettre à faire du travail intellectuel, hein, comprenons bien. C'est vrai qu'il y a des domaines différents. Le travail implique une certaine efficacité. Mais il y a quelque chose de plus profond que l'efficacité. Parce que je dois faire ce travail en vue d'un amour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là les deux orientations très intéressantes, tout de suite, de ce qui, dans l'homme, relève du facere, ce qui relève dans l'homme de son travail et ce qui relève dans l'homme de ses intentions profondes. J'ai l'expérience que je dois faire ce travail. Vous avez l'expérience actuelle que vous devez faire ce travail. c'est-à-dire essayer de comprendre à partir de quel moment la philosophie morale va pouvoir s'élever. Vous avez cette conscience de ce travail, de ce devoir du travail. Vous voyez très bien que ce devoir du travail peut s'orienter vers l'efficacité de l'œuvre. Il faut réaliser une œuvre. Ou au contraire, il faut être très attentif à mes intentions. Vous voyez ? Alors là, je crois que c'est très important pour nous, cette expérience que nous avons. Bon, du travail. Ou plus exactement, je dois travailler. J'insiste, je dois travailler. Nous avons tous cette expérience. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, maintenant je me repose, je suis à la retraite. C'est ce qu'il y a de plus ennuyeux. Donc, l'expérience je dois travailler, j'essaie de lui redonner un nouveau sens. Comme vous n'êtes pas encore à la retraite, vous n'avez pas encore cette expérience-là. Mais le jour où vous serez à la retraite, vous penserez qu'en effet, il faut redonner un nouveau sens où je dois travailler. Parce que je peux, à ce moment-là, faire un travail qui m'intéresse. C'est formidable, ça. J'ai jamais pu réaliser ça avant. Mais maintenant, je suis à la retraite, ça y est, l'état pédérant, ça va. Plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. Je peux faire ce qui m'intéresse. C'est à ce moment-là où je dois travailler, prendre toute sa signification. Parce que quand je dois travailler pour gagner suffisamment d'argent pour ma pension. Vous comprenez, le « je dois travailler », il est finalisé par quelque chose qui n'est pas très drôle. Je dois trouver du boulot. Ça dit tout, ça. Alors, on est obligé pour gagner sa vie. C'est une petite expérience du travail. Tandis que quand on peut choisir, c'est tout à fait différent. Je dois travailler. J'insiste sur je dois. Les intentions. Travailler. Efficacité. Orienter vers l'œuvre. Et cette expérience, je dois travailler, a donc les deux. L'intention, ça me conduit à un amour personnel. Je dois travailler pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis, je dois travailler l'efficacité de l'œuvre. Donc, je vois dans cette expérience très simple que nous avons tous, qui au point de vue moral est un nœud, je ne méprise pas ça du tout. Hein. Quand je dis je dois travailler, c'est quand même quelque chose de très important. Et quelqu'un qui s'éveille en disant je dois travailler, c'est une certaine dignité humaine. L'homme apparaît dans une certaine dignité quand il dit « je dois travailler ». Un homme qui sait se tenir debout en disant « je dois travailler », on a le respect pour lui. Tandis qu'un homme qui est incapable de dire « je dois travailler », vous êtes pour à quoi ? À faire la planche et vous laisser porter. Tout simplement. Et que je dois travailler, ça nous. Il y a un nœud. Il y a un nœud très important, là. Celui qui est capable vraiment de vivre de ça. Il y a déjà une dignité de l'homme. Mais dans je dois travailler, on voit très bien la complexité, l'intention et l'amour, l'efficacité et l'œuvre. Il y a les deux. Alors certains diront je dois travailler en vue de l'efficacité, d'autres diront je dois travailler l'intention, c'est ça l'important. Donc, il y a un aspect moral et un aspect d'efficacité. C'est très intéressant de voir qu'à l'intérieur de cette expérience, je dois travailler, qui est l'expérience la plus commune, vous voyez deux orientations. Dès que j'analyse philosophiquement, deux orientations. L'orientation de l'analyse de l'algèbre, ce qu'on appelle l'algèbre, et le fracturé. Et c'est très curieux, c'est dans le doigt, je dois travailler, où les deux sont très liés. Voilà, ce Ce serait là, vous voyez, ce serait intéressant de regarder ce que c'est que la morale stoïcienne. C'est très intéressant de voir ça. Parce que c'est peut-être la grande expérience. C'est peut-être la grande... C'est vrai, c'est une des grandes expériences humaines. Mais je vois très bien donc les deux orientations. Or, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas d'étudier le travail dans son efficacité. Nous le verrons après, le cours suivant. Donc nous le laissons de côté, nous distinguons les deux. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir naître l'intention morale. Je dois travailler en vue de faire plaisir à ma vieille mère. C'est merveilleux. Pour qu'elle ne dise pas que je suis un cancre, on l'a trop dit, elle verra bien que je ne suis pas. Je dois travailler pour elle. Je dois travailler par amour pour elle. Donc, ou bien je dois travailler par amour pour Dieu. J'ai compris, je suis converti, la dernière retraite, je me suis converti, retraite d'élection. Oui, je me suis converti, je me dis, bon, c'est ça, je dois m'orienter vers Dieu. L'intention qui s'oriente vers l'amour personnel pour Dieu ou la vieille maman. Ça dépend des registres, n'est-ce pas? Mais, ou l'autre, ou d'autres, des amis. Moi, ça leur fera plaisir. Je sais que ça leur fera plaisir. Je crois que ça, nous pouvons tous saisir ça, et nous pouvons tous faire saisir ça. C'est très intéressant de voir ça. Ce partage qui existe entre les deux. Je vois tout de suite que regarder le côté de l'efficacité ne me dira rien de l'intention. L'efficacité, c'est du côté du facere. Ce sera donc la question des méthodes. Ah oui, pour l'efficacité, les méthodes. La question de l'outil. Ah oui, c'est très important. La question de la matière. Enfin, très très important. Voilà les trois choses qui sont du côté de l'efficacité. Ça n'a rien à voir avec l'intention. Mais rien du tout. L'intention, elle est beaucoup plus qualitative. C'est une question intérieure. L'intention est intérieure, tandis que l'efficacité extériorise tout de suite. Il y a une objectivité beaucoup plus grande du côté de l'efficacité. Tandis que de l'autre côté, c'est l'intention. Je dois. C'est la personne. Je dois travailler. Et c'est cet aspect premier de l'intention qui commande tout. Alors, je suis donc orienté vers la question de l'intention. Je peux étudier, je pourrais très bien étudier ce que c'est que l'intention. Et je me demande s'il ne faut pas regarder une autre expérience. Je dois travailler par amour pour Dieu, par amour pour ma vieille maman. Ce bon prêtre chinois qui disait « Oui, je veux retourner en Chine parce que je n'ai pas vu ma vieille maman depuis si longtemps. » Alors ses amis disent « Mais c'est très dangereux, ça m'est égal, c'est par amour pour elle. » Et quand il disait ça, on voyait tout le poids qu'il mettait par amour pour elle. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Et on voit à ce moment-là que peu importe le travail qu'il faut engager, ça n'a aucune, même les risques, les difficultés, ça n'a aucune espèce d'importance. Par amour pour quelqu'un. Alors je dis, tiens, il y a une autre expérience. Ce lien qui me lie à une personne humaine. Par amour pour Dieu. Je ne prends pas ça tout de suite parce que si je prenais ça, une quantité de personnes ne me suivraient pas dans le climat d'aujourd'hui. Je ne veux pas édifier ma morale par amour pour Dieu. Et ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse beaucoup. Il ne faut pas dire que je l'exclus. Nous y reviendrons. Mais par amour pour Dieu, exclurez toute une catégorie de gens qui diraient là, votre morale est théiste. Votre morale est religieuse. Non, 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 ma morale n'est pas religieuse. Ma morale, c'est une morale. Et donc elle saisit le cœur de l'homme dans ce qu'il a de plus humain, premièrement. Ensuite, elle s'étendra. Mais elle est d'abord humaine. Ça, c'est très important. Elle est d'abord humaine. Je, c'est la personne humaine. Alors, quelle est la grande expérience? L'amour de ma mère. Et on pourrait prendre ça, après tout. Tout homme digne de ce monde a eu une mère. Et il a aimé sa mère. Je crois. Il a aimé sa mère. Et donc, je pourrais très bien partir de l'amour de la mère. Pourquoi pas? Évidemment, je me bâtarrais à ce moment-là avec certains psychanalystes qui habitent du côté de Neuchâtel et qui disent que c'est la chose la plus terrible, que l'amour de l'enfant pour sa mère, et ça dure, alors quand quelqu'un a 45 ans et qu'il édifie une éthique en disant « je vais partir de l'amour de ma mère », on dira « mais oui, il n'est jamais sorti du sein maternel, vous voyez ». Le cordon ombilical n'est pas entièrement coupé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas entièrement autonome. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai, il faut bien dire que cet amour de ma mère, c'est quelque chose de très beau, très grand, très noble, mais c'est tellement secret. C'est tellement secret. Mais je pourrais partir de là. Ça me donnerait déjà, vous voyez, une certaine finalité. Aimer sa mère, c'est pas si mal. Hein. Ça donne une certaine dignité à l'homme. Et je rejoindrai peut-être un premier amour très très fondamental. Quand j'étais au berceau, je ne m'en apercevais pas, mais après tout, c'est peut-être ça qui demeure. Et ce psychanalyste, il a raison de dire que c'est ça qui est la plus fondamentale, mais lui dit que c'est dangereux. Moi, je dis non, c'est pas dangereux. Ça m'a aidé toute ma vie. Il y a des hommes qui sont restés fidèles à leur devoir grâce à l'amour de leur mère. Je me souviens. Ça me restera toute ma vie, ça. C'est un dominicain assez particulier. Très intelligent, remarquablement intelligent. Mais c'était net, il restait fidèle à cause de l'amour pour sa mère. Alors certains disent, vous savez, le fils a la vocation parce que la mère l'avait avant lui. Ça arrive, c'est très vrai. Enfin, il y a des mères comme ça qui n'avaient qu'un seul désir, c'est que leur fils soit prêtre, soit religieuse. Alors, ils l'ont tellement projeté sur le gosse que le gosse est entré au couvent à cause de sa mère. Elle s'est restée. Mais le cordon ombilical n'a pas été entièrement coupé. Et c'est la mère qui est entrée au couvent à la place de l'enfant. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça arrive de temps en temps. Mais attention, il y a quelque chose de grand. C'est que, je me souviens très bien, ce religieux est resté fidèle tant que sa mère. Et le jour où sa mère est morte, je le connaissais bien, il m'a dit, il y a quelque chose de changé maintenant dans ma vie. Et tout était bousculé, tellement l'amour à l'égard de sa mère était quelque chose de fort. Alors, on pouvait dire, c'était un peu trop fort, et donc il n'est jamais arrivé à entièrement dépasser. Je crois que c'était vrai. Ça fait rien. Pendant 50 ans, il est resté fidèle à cause de l'amour de sa mère. C'est quand même quelque chose, ça. C'est... Dire tout de suite dans un regard freudien, c'est un peu court. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui restent fidèles à cause de l'amour de leur mère. La mère, ça joue un rôle extraordinaire dans l'humanité. On ne va pas dire que le père joue un rôle secondaire, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais la mère, c'est plus fondamental. L'amour de la mère a quelque chose de très fondamental. Alors, je pourrais très bien, mais il y a peut-être quelque chose qui peut aller plus loin. C'est un amour où l'élection a été plus forte, parce que ma mère j'ai choisi. Je n'ai pas totalement choisi. Donc il y a toujours quelque chose dans l'amour de la mère qui n'est pas entièrement limpide, qui reste fondamental, vous voyez, viscéral, sans du tout mettre là-dessus quelque chose de péjoratif. Je crois que c'est très grand, je trouve ça très grand, moi. Une fidélité à cause d'un amour d'un fils pour sa mère, c'est très grand. Mais je crois qu'on peut découvrir une expérience d'amour où la lucidité, où le choix va plus loin. C'est dans l'amour d'amitié, d'un ami que j'ai choisi. Tandis que la mère, je n'ai pas totalement choisi. Alors certains diront, ça ne va donc pas plus loin, parce que vous ne l'avez pas entièrement choisi. Donc, oui, mais au point de vue de l'amour d'amitié, il y a quelque chose qui demeure toujours un peu limité, fondamentalement. Très curieux. C'est pour ça que les psychanalystes s'attaqueront à ça. Et cette étude de ce psychanalyste, vous savez, dont je vous ai déjà parlé, cet homme qui... C'est terrible. Je ne sais pas s'il est mort maintenant. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour lui, il voulait être plus freudien que Freud. Freud avait coupé le lien avec le père. Lui, voulait couper le lien avec la mère. Et en disant, la source de toute limitation dans notre vie, c'est l'amour de l'enfant pour sa mère. Et l'amour du fils pour sa mère. Spécialement ça. Donc il fallait couper ça le plus vite possible. C'est pour ça qu'il donnait toute sa fortune pour qu'on fasse à Genève un institut maternel, faussement maternel, n'est-ce pas, où on coupe tout de suite, dès le point de départ, le lien de l'enfant, du fils avec sa mère. Pour le libérer, théologie de la libération. Le libérer de ce lien. Vous voyez tout ce qu'il y a de faux là-dedans. Mais c'est intéressant parce qu'on voit très bien qu'il y a toujours quelque chose de vrai. Il y a une petite chose vraie, c'est que dans l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère, du fils vis-à-vis de sa mère, il y a quelque chose qui demeure toujours obscur. Une affectivité obscure qui peut être très grande et qui au plan surnaturel, au plan chrétien, pourra être entièrement offert et prendre toute sa dignité. Mais au point de vue purement humain, c'est là où je me place, il y aura toujours quelque chose qui restera comme un nécessaire qui me limite un peu. Tandis que dans l'amour d'amitié, ah, c'est différent. Un véritable amour d'amitié, un véritable ami, je l'ai choisi. Alors, vous voyez, ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de l'amour d'amitié, qu'ils se rabattent, vous voyez dans quel sens, sur l'amour qu'ils ont vis-à-vis de leur mère. Je veux bien, après tout, on peut très bien prendre l'un et l'autre. C'est pas gênant, on peut très bien prendre les deux. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour découvrir cette intention de vie qui me lie à un amour personnel, Dieu ou ma mère, vous comprenez pourquoi, ou l'ami. Alors je mets la mère entre deux. C'est comme le dire. Elle est entre les deux. La mère est source de vie. Dieu est source. Pas de la même façon. Il y a quelque chose de maternel en Dieu, en tant qu'il est source de vie. Quelque chose de maternel, source, parce que source de vie, c'est toujours quelque chose de fondamental et qui reste un peu obscur. Tandis que l'ami, il n'est pas source de vie. C'est l'ami, je l'ai choisi. Et d'une certaine manière, parce que je l'ai choisi, je lui ai donné quelque chose que je ne peux pas donner. j'ai donné à l'ami une possibilité d'être ami. C'est pour ça que je prendrai cet amour d'amitié comme première expérience pour essayer d'entrer dans la philosophie éthique. Mais je pourrais prendre ça, si vous ne l'avez pas, prenez le numéro premier. Alors j'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, alors, rabattez-vous sur l'amour du travail.